Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission qui essaie de faire tourner la Terre plus juste. Et de justice, on va en parler aujourd'hui, d'une justice bien particulière qui est la justice fiscale. Les impôts, la fiscalité, c'est un sujet qui nous touche tous. Et pour en parler, j'ai invité aujourd'hui Monique Van Dieren, des équipes populaires et aussi membre du réseau pour la justice fiscale. Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors tout d'abord, peut-être rappeler pour les auditeurs qui ne le sauraient pas ce que sont les équipes populaires.
Donc les équipes populaires, c'est un mouvement d'éducation permanente qui est une organisation constitutive du MOC, Mouvement Ouvrier Chrétien. Le mouvement est composé de personnes et de groupes qui réfléchissent et qui agissent pour plus de justice sociale et de solidarité. Et donc nous menons avec nos groupes des actions de proximité dans les quartiers. Et nous organisons aussi des campagnes de sensibilisation sur des problèmes que les gens rencontrent au quotidien, des problèmes sociaux, économiques ou d'accès à l'énergie, de logement.
Mmh. Et parmi ces problèmes, le problème de la fiscalité vous préoccupe particulièrement.
Oui, c'est ça. Oui. Donc nous participons aussi à des réseaux d'action qui justement mettent en évidence des problèmes particuliers. Donc nous participons de manière active au réseau pour la justice fiscale. Depuis sa création en 1998, d'ailleurs, avec Entrée des Fraternités notamment.
Alors ce réseau, on en a entendu parler un petit peu dans les médias au tout début de l'année, parce que vous avez mené une action, vous avez bu le champagne devant le Square des Millionnaires. C'était quoi cette action?
Effectivement, nous avons bu le champagne en fait à la santé des grosses fortunes. Effectivement, le Square du Bois, comme il s'appelle donc à Bruxelles, c'est en fait un endroit symbolique puisqu'il concentre dans cette rue privée plusieurs grosses fortunes, belges et françaises d'ailleurs, et même d'autres pays aussi, donc des personnes qui essayent justement de profiter, entre guillemets, du fait que la Belgique est quelque part un paradis fiscal pour les personnes les plus fortunées. Alors, ce qu'on a voulu dénoncer en buvant le champagne devant cette rue privée, c'est le fait que les riches, en fait, payent beaucoup trop peu d'impôts par rapport à leur capacité contributive. Donc, si on entre dans la logique qu'on travaille une partie de l'année pour payer ses impôts et que l'autre partie, on la paye pour soi-même, ce qui est une logique en soi assez contestable, hein, puisqu'en fait, les impôts, tout le monde en profite. Mais donc, si on entre dans cette logique, on peut considérer que les fortunés en Belgique, en fait, ont déjà fini de payer leurs impôts le 4 janvier. C'est pour ça qu'on a choisi la date symbolique du 4 janvier.
Oui, on se souvient que c'est la Fédération des entreprises de Belgique qui, l'année dernière, avait célébré fin mai, je pense, le jour où on commence. C'est soi-disant travailler pour soi-même. Et d'ailleurs, le réseau avait déjà lancé une action à ce moment-là aussi.
C'est ça, oui. C'est une société de consultance pour les entreprises qui s'appelle Pricewaterhouse, qui calcule chaque année le jour exact où il estime que les Belges ont terminé de travailler pour payer leurs impôts et où ils commencent, entre guillemets, enfin à travailler pour eux.
Et donc, vous avez calculé que pour les plus riches, c'est
pour les
4
riches,
janvier,
c'est déjà le début de l'année, puisque donc, sur les 1700 milliards de patrimoine des Belges, en fait, ils sont taxés à peu près, ce patrimoine est taxé à environ 10 milliards, donc c'est quand même très peu par rapport à la somme que ça représente.
Oui. On va revenir tout à l'heure sur toutes ces notions. Peut-être rappeler un petit peu, en effet, l'histoire du réseau, qui s'appelait au départ Réseau d'action contre la spéculation financière, qui au départ promouvait aussi la taxe Tobin, dont on reparle pour l'instant. Alors ça remonte à quelques années déjà.
Oui, donc le réseau pour la justice fiscale a été créé en 1998, je pense, au moment où on commençait à parler justement beaucoup de la spéculation financière, de la bulle spéculative et des premières crises financières qui sont nées dans les pays asiatiques notamment, et puis en Russie et en Amérique latine. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte effectivement de l'impact très très négatif de la spéculation financière sur les États et donc sur les populations les plus pauvres du monde. Et donc, voilà, le réseau est né à ce moment-là et on a étendu notre action aussi à la justice fiscale en Belgique. Donc, c'est pour ça que le réseau, au départ, s'appelait Réseau d'action contre la spéculation financière. Et puis, on a voulu aussi traduire un message plus positif en disant réseau pour la justice fiscale en Belgique, mais aussi dans le monde.
Et donc, comment fonctionne ce réseau? D'abord, il rassemble combien d'organisations et quel genre d'organisations? Et puis, comment travaille-t-il?
Donc, le réseau est composé d'une soixantaine d'organisations, une cinquantaine, des organisations, des associations, des ONG, les grosses ONG, les syndicats. Et le réseau pour la justice fiscale a aussi un équivalent néerlandophone qui s'appelle le Financial Action Network, FAN, qui mène aussi la même action en Flandre. Et nous avons régulièrement des contacts et nous menons donc des actions communes, notamment la campagne qu'on mène actuellement depuis un an qui s'appelle « Ne laissez pas échapper les grosses fortunes ». C'est une campagne qui se réalise en collaboration entre le Réseau pour la justice fiscale et le FAN.
Avec, pour symbole, ce petit fantôme qui représente les fortunes
qui
dont on ne voit pas beaucoup la couleur.
Qui s'échappe. Oui.
Qui s'échappe. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Et donc, comment travaillez-vous ? Comment agissez-vous alors ?
Donc, en fait, l'objectif du réseau, c'est de formuler des propositions pour une plus grande justice fiscale qui, pour nous, est un passage obligé pour plus de justice sociale. Et aussi donc pour lutter contre la spéculation financière. Alors, ces propositions, on les défend auprès du monde politique. C'est-à-dire, nous avons régulièrement des rencontres avec les parlementaires, nous assistons à des débats, nous faisons des propositions. Et aussi, évidemment, on relaie ces propositions auprès de l'opinion publique, parce qu'évidemment, on a plus de poids politique aussi quand on a l'opinion publique derrière soi. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation auprès de l'opinion publique sur l'importance non seulement de payer des impôts, mais sur le fait que les impôts doivent être justes.
Est-ce que vous avez l'impression que depuis la crise bancaire de 98, vous êtes plus entendu dans les médias avec des opinions un petit peu différentes ?
Mais effectivement, hélas, la crise a donné un peu raison aux personnes, aux associations du réseau pour la justice fiscale, puisque donc on a bien vu que c'est la spéculation financière et les produits pourris, entre guillemets, qui circulent, qui ont fait qu'effectivement cette crise a pris de l'ampleur et a été nettement défavorable, évidemment, aux États qui ont dû sauver les banques. Et donc, tout l'argent que l'État a dû mettre dans les banques, effectivement, c'est de l'argent qui n'est pas disponible pour permettre une redistribution des revenus et un financement des services collectifs.
Mmh. Oui. On va voir un petit peu plus tard si vos revendications sont entendues. On va faire une première pause musicale maintenant avec une chanson de circonstance, parce que la crise inspire les chanteurs aussi. C'est Alain Souchon avec « Parachute doré ».
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana la noix de coco. Adieu téléphone, adieu le bureau, le secrétaire au haut talon haut.
Voilà, c'était donc Alain Souchon et Parachute Doré pour illustrer notre propos d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui. On parle donc de fiscalité, de justice fiscale. Alors, quand on parle d'impôts, tout de suite, c'est un sujet sensible, hein, et on vient de quitter un ministre des Finances qui voulait les diminuer à tout prix, mais au contraire, le réseau pour la justice fiscale dit qu'il faut qu'il y ait des impôts. Pourquoi alors ?
Oui, effectivement, on dit que l'impôt est relativement élevé en Belgique. Ce qui est vrai, mais quand même pas tant qu'on le dit en général dans la presse et dans les milieux financiers. Le problème, c'est qu'il est inégalement réparti, en fait. Donc, en fait, le rôle premier de l'impôt, c'est évidemment d'avoir de l'argent pour financer les services collectifs, les services publics, ainsi que la sécurité sociale, les soins de santé, les pensions.
On dit qu'on donne de l'argent pour les poches de l'État, c'est aussi pour les nôtres.
Pas pour l'État, c'est d'abord pour les citoyens, évidemment, et pour tous les citoyens, y compris les personnes les plus fortunées. Alors le principe démocratique fondamental de l'impôt, c'est évidemment de faire contribuer de manière plus importante les gens qui ont proportionnellement plus de revenus. Donc il faut que l'impôt soit progressif. Donc au plus on a de l'argent, au plus on a des capacités contributives, au plus on contribue à financer les services collectifs. Donc en Belgique, effectivement, l'impôt est progressif, mais selon le réseau justice fiscale, il n'est pas assez progressif. C'est-à-dire que les revenus du travail payent proportionnellement, les travailleurs payent proportionnellement plus d'impôts que les personnes qui vivent de revenus du capital ou des placements immobiliers.
Mmh. Et donc vous ne dites pas plus d'impôts, mais les impôts autrement, en fait.
C'est ça, voilà. Donc en fait, effectivement, donc ce qu'on veut, c'est pas qu'évidemment que les travailleurs payent plus d'impôts. Au contraire, on pense que justement, si les personnes qui ont les plus hauts revenus ou qui sont les plus fortunées payaient plus d'impôts, ça permettrait à ceux qui en ont moins de payer moins d'impôts.
Mmh. Alors bon, le gouvernement qui vient de se mettre en place a élaboré une série de mesures pour trouver l'argent nécessaire à combler notre déficit. Est-ce que les revendications du réseau ont été un petit peu entendues par ce gouvernement ? Quel est le bilan que vous faites de toutes ces mesures, en fait ?
Mais on a l'impression qu'elles ont été entendues, mais très partiellement et beaucoup trop partiellement. Il y a certains principes qui sont intéressants, mais le gouvernement a été beaucoup trop frileux dans l'application de certaines mesures. Par exemple, en matière d'impôt des sociétés, le taux officiel de l'impôt des sociétés en Belgique est de 33,99%, pour être précis. En réalité, il y a une série de mécanismes, notamment les intérêts notionnels, dont on a parlé assez bien ces derniers mois, tous ces mécanismes font qu'en réalité, l'impôt des sociétés est beaucoup plus bas qu'on ne le dit, et en particulier pour les grosses entreprises et celles qui font beaucoup de bénéfices, ce qui est évidemment très paradoxal. Donc le gouvernement a par exemple pris une mesure pour réduire les intérêts notionnels, mais de manière beaucoup trop...
timide.
Beaucoup trop timide. Par exemple, le taux est passé de 3,4 à 3%, par exemple. Donc,
peut-être rappeler rapidement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas nécessairement ce que c'est, les intérêts nationaux. C'est une façon de déduire fiscalement des intérêts qu'on n'a pas encore fait, qu'on pourrait faire.
En fait, le principe, c'est que les investissements que les entreprises font avec leur capital propre peut être déduit fiscalement. Tout comme, par exemple, les intérêts qu'elle aurait fait en empruntant de l'argent sur le marché bancaire. Donc, on estime que les entreprises qui n'empruntent pas parce qu'elles ont elles-mêmes les capitaux pour investir, eh bien, ces capitaux-là sont déduits, en fait, fiscalement aussi.
Donc, c'est un système un peu compliqué.
Voilà, donc, c'est un système, en fait, pour attirer les entreprises étrangères aussi, puisque donc c'est un système de fiscalité très intéressant, notamment pour les grosses entreprises, puisqu'on se rend compte qu'en fait, les entreprises les plus importantes ne payent pas 33% d'impôts, même pas 25%. Il y en a qui ne payent que 0,5% d'impôts, par exemple. exemple, Electrabel, en 2009, n'a payé que 0,04% d'impôts. Une société comme ArcelorMittal, qui a fait pourtant, on le sait bien, plusieurs centaines de millions de bénéfices, a payé 560 euros en 2009. Donc, il y a un mécanisme qui favorise effectivement les grosses sociétés, auquel le gouvernement a timidement... a pris des mesures pour essayer de contrer ces effets-là, mais on estime avec le réseau justice fiscale qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin, et plutôt que de pouvoir faire 2 milliards d'économies comme c'est prévu sur ce secteur-là, il y avait facilement moyen d'en faire 4 ou 5.
Et ces intérêts nationaux sont notamment destinés, justement, on l'a dit, à attirer les multinationales et théoriquement l'emploi. Mais bon, avec ArcelorMittal, on voit bien que ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans les déclarations de principe quand les intérêts nationaux ont été mis sur pied, mais en fait, il n'y a aucune contrainte légale pour les entreprises qui bénéficient des intérêts nationaux à créer de l'emploi. Et au contraire, on remarque presque que les grosses entreprises, à la fois bénéficient des intérêts nationaux, mais diminuent l'emploi.
Mmh. Oui, donc le but n'est pas atteint.
Et effectivement, dans les mesures du gouvernement ici, il n'y a toujours pas la contrainte de création d'emplois dans le système des intérêts nationaux.
Trop timide, donc.
Oui.
Alors, d'autres mesures éventuellement ?
Oui, donc il y a par exemple l'augmentation de la taxation de certains revenus mobiliers, donc les revenus du capital. Ça, c'est une mesure intéressante sur le principe, évidemment, que le réseau justice fiscale soutient, puisque globalement, les revenus du capital sont très très peu taxés par rapport aux revenus du travail. Et donc, il y aura par exemple une cotisation de solidarité de 4% supplémentaire pour les personnes qui ont... plus de 20 000 euros de revenus mobiliers. Donc les revenus mobiliers, c'est les revenus des intérêts, des placements, etc. Ça correspond quand même à un revenu à des placements de à peu près 800 000 euros.
Donc, c'est ça, donc ce n'est pas 20 000 euros de patrimoine, c'est d'intérêt.
C'est 20 000 euros d'intérêt, donc ce qui correspond plus ou moins à 800 000 euros de patrimoine.
Oui.
Donc voilà, pour ces personnes-là, il y aura une cotisation de solidarité supplémentaire de 4%. Or, le réseau justice fiscale estime qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin et prône notamment un impôt progressif sur les grosses fortunes, qui aurait évidemment rapporté beaucoup plus, qui aurait rapporté à peu près 7 milliards.
Qu'est-ce qu'on appelle une grosse fortune ?
Donc une grosse fortune, pour le réseau justice fiscale, il estime qu'une grosse fortune, ce sont les personnes qui possèdent plus d'un million d'euros hors habitation. Donc voilà, donc les personnes qui ont comme placement ou comme autre revenu 1 million d'euros, sans compter la valeur de leur habitation principale, on estime que ces personnes-là peuvent en tout cas contribuer plus fortement à l'impôt. Et donc ça concerne 3% des personnes les plus riches en Belgique, ce qui n'est donc pas énorme. Il ne faut pas donc croire que tout le monde peut être considéré comme une grosse fortune.
Oui,
ça ne concerne que 3% des
personnes.
Que
nos auditeurs n'aient pas peur.
Voilà.
c'est vraiment gros comme fortune.
Oui, c'est ça. Et alors, donc, ce sera un impôt progressif de 1% jusqu'à 3% de cette fortune.
Donc, même si c'est un impôt qui paraît petit, il peut rapporter gros vu que les sommes en jeu sont énormes. Quoi. Voilà, ben, on va faire notre deuxième pause musicale avec toujours une chanson dans le thème. Thomas Dutronc. Et je suis pas Nasdaq.
Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Toujours plongé dans le CAC 40, dans mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé. Dans des hôtels et des cocktails, la vie est belle. Je n'ai plus de copain, je n'ai pas de chien. Même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure. Je suis en tour. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute. J'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse, mais pas de contentieux. Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible. Peu de vent dans ton corps sage. Je t'imagine sur la plage. Elle devient toute folle de mon or. Je suis trop fort.
On a fait d'énormes bénéfices, donc on a été obligé de licencier. Et toi, ça va? T'es ruiné? Oh, crotte! c'est ballot.
Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur. J'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je suis dans le présent, j'ai ma veau d'or. Une vache à lait, ouais. J'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Je suis pas Nasdaq. Je t'imagine sur la plage. J'ai choisi la bourse et la vie. Moi mon tailleur est italien. C'est impossible que je craque. Je suis pas Nasdaq. Dac.
Voilà, c'était Thomas Dutronc et je suis pas Nasdaq. Tout ça pour revenir à notre thème du jour qui est donc la fiscalité, en particulier en Belgique, puisque nous venons d'avoir un nouveau gouvernement qui doit s'occuper de ce sujet. Alors on parlait des grosses fortunes, Monique Van Dieren, c'est vrai que les grosses fortunes, il y en a en Belgique, il y a de l'argent en Belgique. On a parfois du mal à imaginer ce que ça représente, mais le patrimoine mobilier et immobilier, donc l'argent plus les maisons, les bâtiments, représentent plus de 1700 milliards de dollars, d'euros pardon, en Belgique. Donc forcément, comme tout le monde n'a pas la même chose, c'est concentré dans les mains de quelques-uns.
Oui, ça paraît, ce sont des chiffres évidemment astronomiques. Effectivement, le Belge est quand même relativement riche par rapport aux autres pays européens. C'est sûr que l'argent qui est sur les comptes épargne a augmenté depuis la crise financière aussi parce que les gens préfèrent les placements plus sûrs. Donc effectivement, ça a mis au jour la fortune des Belges. Mais en Belgique, en fait, 10% des plus riches possèdent 50% de la richesse. Et parmi ces 10%, le pourcent le plus riche possède à lui seul 20% des richesses. Donc on comprend qu'effectivement, les 1700 milliards d'euros ne sont pas répartis, évidemment, de manière égale.
Mmh. Alors une façon de rapporter de l'argent à l'État, c'est de lutter contre la fraude fiscale, c'est quelque chose d'important. Que propose le réseau dans ce domaine-là?
Donc effectivement, la fraude fiscale est aussi, hélas, très importante en Belgique et plus importante que dans d'autres pays européens. Elle est estimée à minimum 20 milliards d'euros par an. Et le réseau justice fiscale, en fait, soutient fortement les résultats d'une commission parlementaire qui a eu lieu en 2009 et qui a fait 108 recommandations pour lutter contre la fraude fiscale, tant du côté de l'administration fiscale que de la justice, pour essayer de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, notamment en levant le secret bancaire, qui a été levé partiellement, mais selon le réseau, pas suffisamment, ce qui entraîne que la lutte contre la fraude fiscale peut être intensifiée, mais ne sera jamais vraiment efficace si le secret bancaire n'est pas levé totalement.
Mais en pratique, il faut déjà avoir de fortes présomptions, ou pratiquement la certitude qu'il y a une fraude pour pouvoir lever le secret bancaire, je crois que c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça, oui, ouais. Oui, oui. Et puis les mécanismes de consultation de la Banque nationale, etc., pour connaître les comptes en banque des particuliers, tout ça, les mécanismes sont encore assez complexes. Mais on a l'espoir, avec le nouveau gouvernement, que des efforts soient entrepris justement pour accélérer ce processus. Et voilà, la nomination d'un nouveau secrétaire d'État à la lutte contre la fraude fiscale nous laisse présager que des choses seront faites cette année-ci. En tout cas, il espère récupérer minimum 1 milliard d'euros cette année-ci. Mm-hmm. Le réseau justice fiscale estime, lui, qu'on peut récupérer nettement plus.
Mm-hmm. Et bien, espérons que vous soyez entendus. On est dans une période où on en a entendu parler en Grèce, en Espagne, dans d'autres pays. Maintenant, ça nous touche aussi. C'est l'austérité. Il faut prendre des mesures pour limiter les dépenses de l'État. On a bien vu qu'avec la fiscalité, on pouvait aussi trouver des recettes, mais on insiste surtout sur les dépenses dans le gouvernement. Est-ce que l'austérité, c'est une bonne solution? Ça a l'air d'être l'unique voie qu'on préconise, mais est-ce que c'est positif?
Mais pour nous, non, parce qu'en fait, on sent une touche très libérale, notamment dans les mesures qui sont prises par le gouvernement belge, mais partout dans les pays européens, c'est qu'on choisit de diminuer les dépenses sociales plutôt que d'augmenter fortement les recettes fiscales. Donc la priorité est mise sur la réduction des dépenses sociales, ce qui signifie que la grande majorité de la population, en fait, va payer le prix d'une austérité, alors qu'en fait, en augmentant légèrement la taxation des hauts revenus, il y a moyen d'éviter de limiter la casse et saurait éviter de prendre des mesures telles que la dégressivité des allocations de chômage, la diminution des allocations de survie, des pensions de survie, etc. Donc en fait, pour nous, en tout cas, l'austérité n'est pas la solution parce qu'on pense qu'au contraire, elle risque d'aggraver le problème. Parce que d'abord, elle va entraîner un ralentissement de la croissance et qu'elle va coûter cher sur le plan social. En particulier, donc, imposer l'austérité à une population fragile, ben, ça risque d'entraîner un glissement du système de l'assurance sociale, tel que chômage et pension, vers un système d'assistance. Voilà, donc c'est un risque de paupérisation accru pour nous, en tout cas.
Et de récession économique aussi.
Voilà, et puis en plus, on entend un discours de plus en plus récurrent sur ben, les pauvres coûtent cher, etc. Et donc, ça fait des pauvres des boucs émissaires, alors qu'en réalité, ils ne sont absolument pas responsables de la crise actuelle.
Merci. Voilà, on arrive malheureusement déjà au bout de cette émission sur un sujet assez complexe. Je vous propose de visiter le site du réseau pour la justice fiscale qui s'appelle lesgrossesfortunes.be. Il y a là-dessus plein d'informations, plein de documents et puis les annonces des prochaines actions du réseau qui ne s'endort pas sur ses lauriers. Quant à notre site, à nous, vous le connaissez, c'est www.vivre-ensemble.be. À très bientôt sur RCF. Merci d'être avec nous.